Brigand, le rendez-vous livre jeunesse avec Lisa Bienvenue.
Une nouvelle rubrique, une nouvelle aventure, un nouveau livre. Bonjour Lisa.
Bonjour Patrice, bonjour tout le monde.
Ça va bien aujourd'hui ?
Ça va très bien.
Toujours avec un livre sous le bras et oui. Toujours notre curiosité, nous. Ben je vous laisse présenter ce livre, La Belle et le Fuseau. C'est un drôle de nom, c'est un drôle de titre.
Oui, un drôle de titre dans lequel on projette pas mal de choses, mais il ne va rien se réaliser de ce qu'on projette. Ah. Absolument rien. La Belle et le Fuseau, donc c'est une histoire de Neil Gaiman avec des illustrations de Chris Riddell. C'est paru aux éditions Albin Michel. Je lis, puis allez, après on en parle.
Laissons-nous porter.
Et c'est porté par l'histoire et par les mots et par les images. Après, on vous parlera des images, parce que là, il n'y a que nous qui les voyons. C'est cruel en même temps.
Oui, c'est vrai.
C'est assez cruel. Surtout des belles images comme ça, je trouve que c'est cruel. La Belle et le Fuseau. C'était le royaume le plus proche de celui de la reine, à vol d'oiseau, et pourtant, même les corbeaux ne volaient pas jusque là-bas. La haute chaîne de montagnes qui marquait la frontière décourageait les volatiles, comme elle décourageait les hommes, on la disait, infranchissable. Plus d'un marchand entreprenant des deux côtés des monts avait envoyé des éclaireurs chercher le passage, qui, si d'aventure il existait, eût fait la fortune de quiconque le contrôlerait. Les soies de Dorimar auraient alors atteint Cancellair en quelques semaines ou quelques mois et non en plusieurs années. Mais jamais un tel chemin n'avait été découvert. En conséquence, bien que les deux royaumes fussent contigus, nul ne passait de l'un à l'autre. Même les nains, hardis et durs à la tâche et faits de magie autant que de chair et d'os, échouaient à franchir les pics escarpés. Mais cela ne les dérangeait en rien. Ils n'avaient cure de passer par-dessus la montagne car ils passaient dessous. Trois nains, avançant en cadence et d'un pas vif dans les obscures voies souterraines. « Vite, vite, pressons !» dit celui qui fermait la marche. « Nous nous devons de trouver pour elle la soie la plus fine de Dorimar. Si nous ne nous hâtons pas, elle sera vendue et nous devrons nous rabattre sur du second choix. »« on sait !» répondit le premier du cortège. « Et il nous faudra un coffre pour la rapporter afin qu'elle reste immaculée, préservée de la poussière. » Celui du milieu gardait le silence, il serrait bien fort sa pierre, de peur de la lâcher ou de la perdre, et ne se préoccupait de rien d'autre. La gemme était un rubis, encore brut et gros comme un œuf de poule. Il vaudrait un royaume entier une fois taillé et monté, et ce serait facile à truquer contre les plus belles soirées de Dorimar. Jamais les nains n'auraient songé à offrir à la jeune reine ce qu'ils avaient eux-mêmes arraché aux entrailles de la terre. C'eût été trop facile, trop banal. C'est la distance qui fait la magie d'un présent. Telle était en tout cas leur conviction. La reine s'éveilla de bon matin ce jour-là. Une semaine, énonça-t-elle à voix haute. Dans une semaine, à compter d'aujourd'hui, je serai mariée. Cela paraissait aussi improbable que définitif. Elle se demandait ce qu'elle éprouverait une fois dans sa peau d'épouse. Ce serait la fin de sa vie, décida-t-elle, si la vie était le temps du choix. Plus qu'une semaine, après quoi elle n'aurait plus aucun choix devant elle. Elle régnerait sur son peuple, elle aurait des enfants. Peut-être mourrait-elle en couche, peut-être à un grand âge, peut-être à la bataille. Mais le chemin vers sa mort, un battement de cœur après l'autre, serait déjà tout tracé. Elle entendait les charpentiers dans les prés en contrebas du château construire les gradins qui permettraient au peuple d'assister à ses noces. Et chacun de leurs coups de marteau était un battement de cœur. Les nains s'extirpèrent d'un trou sur la berge de la rivière et s'enfoncèrent dans la prairie. 1, 2, 3. Ils gravirent un promontoire de granit, s'étirèrent, se dégourdirent les jambes, s'étirèrent encore. Puis ils filèrent vers le nord en direction du petit amas de maisons basses qui constituait le village de Gif, et plus précisément en direction de l'auberge. L'aubergiste était leur ami. Il lui apportait, comme à leur habitude, une bouteille de vin de Cancellair. Rouge, sombre, riche et sucré. Rien à voir avec la pâle et aigre piquette de ces contrées-là. L'aubergiste les nourrirait, leur indiquerait le chemin et les conseillerait. Le torse aussi large que ses barriques, la barbe aussi fournie et rousse qu'une queue de renard, le dit aubergiste se trouvait dans la salle commune. La matinée était peu avancée et lors de leur précédente visite à cette heure-là de la journée, les nains avaient trouvé la salle vide. Mais ce jour-là, 3 dizaines de clients étaient présents et aucun ne semblait de bonne humeur. Les nains qui s'attendaient à entrer dans une taverne déserte furent au centre de tous les regards. « Mon bon maître Foxen !» lança le plus grand à l'aubergiste. « Mes petits !» répondit l'homme qui prenait toujours les nains pour des enfants alors qu'ils avaient 4 ou peut-être 5 fois son âge. « Je sais que vous connaissez les chemins pour franchir la montagne, il faut que nous partions d'ici. » « Que se passe-t-il ? » s'enquit le plus petit des nains. « Le sommeil !» lâcha un ivrogne à côté de la fenêtre. « Le fléau !» ajouta une femme élégamment vêtue. « La malédiction !» s'exclama un rétameur, dont les casseroles tintèrent tandis qu'il parlait. « La malédiction arrive !» Comme la semaine dernière, on s'arrête sur une histoire de malédiction. C'est un moment clé dans l'histoire, parce que du coup, tout est possible.
Voilà, tout est possible, en sachant que ça ne peut pas forcément aller que dans le bon sens.
Pas que. Mais cette histoire est comme, n'a vraiment rien à voir avec celle de la semaine dernière, La Belle et le Fuseau. Là, forcément, on pense à... Enfin, forcément, je dis ça, mais non, pas forcément. La Belle et la Bête.
Oui, voilà. Voilà. Comme ça part, effectivement.
On peut penser aussi à La Belle au Bois Dormant, à Blanche-Neige.
Mais le côté, ils se marient, eurent beaucoup d'enfants, prend vite un peu du plomb dans l'aile, quand même.
Oui, bah surtout que c'est annoncé dès le début que ça va prendre du plomb dans l'aile. Hein. Alors après, quand on... dans ce livre-là, j'ai d'abord regardé les illustrations pour essayer de tracer un petit peu l'histoire avec les images. Et j'ai été très surprise, en fait. Donc je ne vais pas vous en dire plus, que ce serait vraiment dommage de gâcher ce plaisir-là. Mais c'est un livre qui est très surprenant. C'est ce qui est très très fort là, de la part de l'auteur Neil Gaiman. C'est quelqu'un qui a l'habitude de jouer avec les mythes, avec les contes populaires, avec les légendes, avec tous ces personnages, toutes ces histoires qui font vraiment partie depuis la nuit des temps, en fait,
de notre
imaginaire et de nous les humains depuis tout le temps. Et voilà, à mon avis, je pense que c'est quelqu'un qui les connaît très très bien. Du coup, il en joue beaucoup. Ça se passe jamais, mais vraiment jamais comme on s'y attend. Et là, mais vraiment, vraiment pas du tout. C'est très très surprenant à tous les points de vue. Neil Gaiman, c'est aussi quelqu'un qui est très engagé dans le monde d'aujourd'hui, qui a beaucoup de combats. Pour l'égalité, pour l'égalité des hommes et des femmes, pour une société plus juste, c'est quelqu'un de très humain et qui n'hésite pas à se faire porte-parole de certaines causes auxquelles il croit très très fort, pour donner son point de vue, mais jamais de manière morale en fait, jamais jamais, c'est toujours vraiment un point de vue. Pour le coup, ça passe très très bien. Et dans ce livre-là, je trouve que c'est très bien. C'est une espèce de pavé dans la mare, dans tous les. Bon, alors c'est un auteur anglais, c'est pas un auteur français, mais il y a quand même un mouvement là autour du mariage pour tous, des genres féminins, masculins. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses là qui se passent, qui posent questions, qui interrogent, avec des levées de boucliers d'un côté et de l'autre. Et ce livre-là, moi, j'ai l'impression qu'il rassemble un petit peu ça et qui fait quand même pas mal réfléchir. Quelques mots des illustrations de Chris Riddell quand même.
Ah bah oui, il faut en parler parce que c'est quand même...
C'est quand même un objet... La couverture d'abord, c'est une espèce de papier calque avec du papier avec du noir et du doré dessus, qui découvre une belle endormie, une très très belle endormie.
Est-ce qu'on peut parler de dessin à l'encre de Chine ? Ça, il fait penser un petit peu ce côté monochrome
noir
et blanc avec des traits extrêmement fins.
Je sais pas si c'est de l'encre de Chine ou si c'est, autre chose, ou du crayon, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est un côté très 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 fin. Il y a un côté très effrayant qui met mal à l'aise quand on voit tout ce fouillis là dans la forêt. On sent que ça pique, que ça gratte, que ça grouille de choses qui nous sont un petit peu étrangères, et c'est l'inconnu en fait. Donc c'est une histoire qui nous est inconnue avec des images en fait qui nous interpellent beaucoup, qui nous posent question. Avec des dessins, il y a une image de baiser qui est absolument qui est très très belle, cette image là tout en noir et blanc, avec une belle fleur au milieu sur la double page. Puis c'est doré, ça. Alors les nains sont à la fois drôles, à la fois effrayants. La vieille gardienne de la belle endormie est juste effrayante, avec ses trois cheveux sur le caillou là et son regard très sombre.
Des images très riches.
Des images vraiment très très riches qui nous emmènent vraiment vraiment loin dans l'imaginaire. Et alors Chris Riedel, il a fait les images aussi d'une série qui s'appelle Les Chroniques du bout du monde, qui sont parues aux éditions Milan il y a déjà quelques années. C'est 9 tomes, donc des romans écrits par Paul Stewart. Et donc c'est un monde d'heroic fantasy, donc avec des chevaliers, des elfes, des dragons, donc des choses très à la fois sérieuses, à la fois graves. Et Paul Stewart, c'est une sorte de pastiche sérieux de ces univers d'heroic fantasy. C'est très très drôle. C'est très très drôle et en même temps un peu à la manière de l'univers des frères Coen. Enfin, je sais pas s'il y a des gens qui écoutent là qui connaissent un peu les frères Coen. C'est ce mélange en fait d'humour très très absurde et en même temps d'une tendresse infinie pour les personnages, pour certaines situations. Et du coup, on est toujours on hésite entre le rire et les larmes, c'est bourré d'émotions. Voilà, Chris Riedel, il a participé à ça. Et Neil Gaiman, il est là-dedans aussi, un mélange de franches rigolades, de choses complètement absurdes, et puis de choses très 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 sérieuses qui nous prennent aux tripes. Voilà. Je pense que ça s'entend que j'aime. Hein.
Oui, ça. Hein, ça transparaît. Hein,
ça transparaît. Non, Neil Gaiman, c'est vraiment quelqu'un à découvrir.
Bon, ben, il nous reste plus qu'à nous procurer ce joli ouvrage.
Très, très bel ouvrage, oui. La Belle et le Fuseau, Neil Gaiman, illustration de Chris Riedel, aux éditions Albin Michel.
Et c'est sorti en octobre 2015, c'est récemment.
Oui.
Merci beaucoup, Lisa.
Merci, Patrice.
À très bientôt.
Merci à tous.
Retrouvez Plume de Brigand sur notre site radioroyant.fr avec la présentation des livres par Lisa et sur le site plumedebrigand.fr. À bientôt pour de prochaines chroniques.